Bonjour à tous et je vous souhaite une bonne année, en tout cas la meilleure qu'on puisse avoir, en espérant que ce cours se continuera en présentiel un peu plus tard. En attendant, ce que je vais faire, c'est aujourd'hui commencer par vous présenter le sujet du cours. Donc le sujet, c'est sur la notion de représentation parcimonieuse. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet cette année, c'est que je voulais revenir à des éléments un peu fondamentaux du traitement de données. Les deux années précédentes, on a vu les problématiques de réseaux de neurones profonds, les applications et notamment tout le manque de mathématiques et le fait que, essentiellement, on est actuellement dans une phase très empirique où il y a beaucoup de très beaux résultats, beaucoup d'algorithmes, mais une grande difficulté pour comprendre vraiment ce qui se passe. Donc cette année, ce qu'on va faire, c'est revenir sur les principes de base pour essayer de comprendre où se trouve une partie, en tout cas, du cœur du traitement de données. Et on verra ça en lien avec ces notions de représentation parcimonieuse. Alors, pendant la première année, j'ai commencé par une cartographie des sciences des données. Et on a vu qu'il y avait vraiment deux grands domaines. D'un côté, ce qu'on appelle le traitement de données. Donc, les données, on va toujours les appeler X. Typiquement, ça peut être c'est un tableau de nombres, ça peut être une image, ça peut être un son, ça peut être une série temporelle, financière, représentant des mesures physiques quelconques. Donc typiquement, X, éventuellement, je pourrais le paramétrer comme ça par U, c'est un vecteur qui appartient à RD. Et en traitement de données, le type de question qu'on va se poser, c'est d'essayer de récupérer des signaux de qualité optimale. Alors, par exemple, ce qu'on va vouloir, c'est les transmettre et avec un nombre minimum de bits. Donc, il y aura des problématiques de compression et qui sont directement liées à des questions de théorie de l'information. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir représenter X avec un nombre de bits le plus petit possible. Et éventuellement, on va introduire une erreur. Donc, en fait, ce qu'on va pouvoir récupérer, c'est non pas X, mais une approximation de X. Et il va y avoir une erreur qu'on va pouvoir mesurer, par exemple, avec une norme. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va approximer X et non pas récupérer X lui-même. Donc, il va y avoir cette notion d'approximation qui va apparaître, et plus précisément, d'approximation en basse dimension. Basse dimension, pourquoi ? Parce qu'on veut évidemment pouvoir représenter X avec un nombre minimum de paramètres pour pouvoir le comprimer avec un nombre de bits le plus petit possible et donc avoir une représentation parcimonieuse. Donc on va voir l'interaction entre ces deux notions et évidemment la notion de distorsion, d'erreur, D, qui va représenter l'approximation ou l'erreur introduite. Donc ça, c'est un premier type de problème. Un deuxième type de problème, c'est les problèmes, par exemple, de débruitage. Alors, dans les problèmes de débruitage, ce qu'on a, c'est non pas X, mais un X qui a été contaminé par une erreur epsilon, et on va essayer d'enlever cette erreur. Et ce qu'on va voir à nouveau, c'est que ces notions d'approximation en basse dimension de représentation parcimonieuses sont fondamentales pour ça. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les problèmes inverses sur lesquels je reviendrai. Alors ça, c'est une partie des questions. Dans toutes ces questions, donc, l'enjeu, c'est de récupérer les données de meilleure qualité possible. Et puis, il y a tout un deuxième pan du traitement de données qui est plutôt de l'ordre de l'analyse, qui est aussi très lié à ce qu'on appelle l'apprentissage statistique ou qu'on a la plupart du temps appelé maintenant intelligence artificielle. Et dans ce cas-là, ce qu'on essaye, c'est non pas de récupérer X, mais de répondre à une question à partir de X. C'est-à-dire, ce qu'on cherche, c'est la réponse Y à partir de X, et cette réponse Y, elle est liée à X par une certaine fonction f. Donc ça, ce sont tous les problèmes de classification. Dans ces cas-là, par exemple, si X est une image, Y, c'est la classe de l'image. Ça peut être des chiens, ça peut être des chats, ça peut être des bateaux, des voitures, tout ce que vous voulez. Ça peut être des problèmes de régression. Dans le cas d'un problème de régression, eh bien, Y, ça va plutôt être une quantité réelle. Par exemple, X peut déterminer la géométrie d'une molécule. Y serait l'énergie quantique de la molécule. Est-ce qu'on peut le calculer à partir de ce x? Et donc, dans ce cas-là, l'objet sous-jacent, ça va être le f, qu'il va falloir représenter, et on va se poser la question, idem, est-ce qu'on peut représenter ce f avec un nombre minimum de paramètres pour pouvoir l'apprendre plus efficacement? Alors, le point commun de ces deux domaines pour le cours cette année, c'est que dans un cas comme dans l'autre, on va se poser la question de construire des approximations en basse dimension. Et qui dit approximation en basse dimension va dire des représentations parcimonieuses. Et là, on va se retrouver devant un triangle qui va mettre en jeu trois notions. Donc, d'un côté, on va avoir ces approximations en basse dimension. On va avoir ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire ces représentations parcimonieuses. Il va y avoir une troisième notion qui va rentrer en jeu, c'est la notion de régularité. Et on va voir qu'il y a une sorte d'équivalence entre ces trois notions qui pourtant veulent dire quelque chose de différent. Quand on parle de représentation parcimonieuse, on ne parle pas d'approximation. On prend tout l'objet, c'est-à-dire que ce soit x, c'est-à-dire les données ou la fonction f, et on veut la représenter. Et l'idée d'une représentation parcimonieuse, c'est que dans votre représentation, la plupart des coefficients vont être zéro, sauf quelques-uns qui vont être non nuls, qui en quelque sorte, si vous pensez à f, et je reviendrai sur cette idée comme une théorie qui relie les données à la réponse, ça voudrait dire en quelque sorte on voit un nombre minimum d'hypothèses pour, à partir des éléments, déduire la réponse. Alors, cette idée d'approximation parcimonieuse est en fait très liée à la notion d'approximation, parce qu'en pratique, il faut toujours un très grand nombre d'éléments qui vont éventuellement, il y aura des petits coefficients, mais non nuls. Et donc, il y a un moment où on va dire, on va couper, on va mettre des coefficients à zéro, ça veut dire qu'on va introduire une erreur, et on va se retrouver dans ce monde de l'approximation, ce qui est évidemment toujours le cas aussi quand on fait des théories. Ces théories sont toujours approchées, on utilise un nombre réduit d'hypothèses, et donc on obtient une approximation de la réalité. Alors, pourquoi est-ce que tout ça est tellement important aussi? C'est parce que ce qu'on va voir, c'est que derrière ces idées, il y a la découverte de structures. Quand on découvre des représentations qui sont parcimonieuses, en sous-jacent, on est en train de découvrir des formes de régularité, d'existence de structures, et il y a strictement une équivalence entre ces trois éléments, et ça, ça va être le sujet de tout le cours cette année, c'est d'essayer de comprendre cette équivalence et de voir les applications. Alors, les applications, cette année, ça va être plutôt du côté du traitement du signal, c'est-à-dire ici, mais je commencerai aussi par montrer comment ce que ça permet de bien comprendre au moins les réseaux de neurones à deux couches et les enjeux éventuellement pour des réseaux de neurones plus profonds. Alors, on peut l'approximer, là, si on prend les initiales RAP, cette espèce de triangle. Donc, ce RAP, ce que je vais essayer de le faire, c'est... Bon, je ne chante pas très bien, donc je ne vais pas vous le chanter, mais je vais vous donner des registres qui sont un peu différents, pour, en tout cas pour l'exprimer. Les registres, ça va être d'abord le registre linéaire. Et là, vous allez voir qu'on va découvrir tout un pan, ou revoir tout un grand pan des mathématiques, c'est-à-dire évidemment l'analyse de Fourier, tout ce qui est la notion de régularité de Sobolev, des espaces fonctionnels, etc. Alors, je ne vais pas faire les maths de façon très technique, je donnerai simplement les idées dans les démonstrations, mais vous aurez des pointeurs pour récupérer les éléments. Et puis évidemment, il y a très rapidement, on va passer du linéaire au non-linéaire et comprendre pourquoi c'est tellement fondamental dans tous ces domaines de passer au non-linéaire. Et donc, on reverra cette boucle dans un cadre non-linéaire. Et chaque fois qu'on introduit des nouveaux outils, des nouvelles représentations, à chaque fois on peut revoir cette espèce de RAP, c'est-à-dire voir quelles sont les classes de régularité qu'on est en train d'introduire en définissant sous-jacent des représentations, quels sont les théorèmes d'approximation, les vitesses d'approximation, et évidemment, quelle est la représentation sous-jacente. Alors, ce sujet, c'est évidemment pas du tout un nouveau sujet. La notion de représentation parcimonieuse, c'est très ancien, donc je suis revenu un peu sur Internet pour essayer de retrouver les racines. Il y a évidemment une notion fondamentale qui est derrière cette notion de parcimonie, c'est la notion de rasoir d'Occam. Donc là, je vais, pendant quelques minutes, pénétrer dans un autre domaine qui est plutôt philosophie, voire théologie. Donc le rasoir d'Ockham, d'où ça vient? Donc William d'Ockham, c'était un franciscain qui était entre exactement 1287 et 1347. L'idée, finalement, du principe de parcimonie en philosophie, c'est une forme, et en science d'une manière générale, c'est une forme de principe de résolution de problèmes, le principe étant d'essayer d'éliminer systématiquement toutes les explications qui sont inutiles. Disons, les explications les plus simples sont les meilleures, donc ça, c'est a priori un principe qui nous guide partout en science et qu'on va retrouver là-dedans. Donc ce principe est attribué notamment à William d'Ockham. Il y a une des citations bien connues qui dit, selon lui, les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité. Alors, lui était un théologien, et donc, d'une certaine manière, c'était un point de vue totalement différent du point de vue scientifique, et la justification a été utilisée notamment pour justifier les miracles. Évidemment, à partir du moment où vous faites une hypothèse qui est l'existence de Dieu, eh bien, vous arrivez à une explication extraordinairement simple du reste du monde à travers la notion de miracle. Et donc, le principe de parcimonie est totalement ici justifié, vous permet d'expliquer le reste du monde. Alors, cette idée-là, qui évidemment a été utilisée dans un cadre ici théologique, on la retrouve partout. En fait, elle a une histoire qui est beaucoup plus longue, qui est assez intéressante de reprendre. Dans un cadre philosophique, on a cette notion de rasoir philosophique qui revient donc à l'idée d'essayer de sélectionner un nombre minimum d'hypothèses. Mais comme je disais, on la retrouve bien bien avant, à commencer par Aristote. Donc ça, c'est moins 350 ans avant Jésus-Christ. Donc, une des citations, on suppose meilleur une démonstration basée sur moins d'hypothèses. Donc, c'est vraiment clairement cette notion de parcimonie qui apparaît ici et qu'on retrouve tout au long de l'Antiquité. Une autre citation, Ptolémée, donc ça, c'est après Jésus-Christ, entre 90 et 168 après Jésus-Christ. Bon principe d'expliquer avec un nombre minimum d'hypothèses. Et donc, évidemment, là, c'était pour l'astronomie, puisque tout le système de calcul de Ptolémée a permis de prédire la prédiction des planètes, notamment. Et pourtant, l'hypothèse de base était que la Terre est plate. Donc, ça montre bien qu'avec un système d'approximation, on arrive malgré tout à de très bons résultats. Et donc, la science avance au fur et à mesure en raffinant ses hypothèses. Donc, un peu plus tard, Thomas d'Aquin, donc ça, c'était juste avant William d'Aquin. Thomas d'Aquin, c'est aussi un théologien qui a notamment fondé l'école scolastique. Et là, l'idée, c'était véritablement, d'une certaine manière, d'intégrer une forme de rationalisme issu de l'Antiquité avec la religion catholique. Et encore une fois, on retrouve, en même temps, pour justifier l'existence de Dieu et des miracles, ce genre de maxime, superflu de considérer que ce qui a été expliqué par moins d'hypothèses le sera avec plus. Alors évidemment, en science, c'est un principe qui est tout à fait fondamental. Autre citation, Newton, « Il ne faut pas chercher de cause naturelle au-delà de ce qui est valide et suffisant pour expliquer leur apparence. » Alors, ce qui est intéressant dans cette citation de Newton, c'est que c'est véritablement un point de vue empirique. Là, il ne s'agit pas d'expliquer la vérité, mais d'expliquer l'apparence, autrement dit, les mesures. Donc là, on se rapproche beaucoup plus du point de vue qu'on va prendre, c'est-à-dire qu'on va avoir des mesures, il va falloir expliquer ces mesures à partir de systèmes de représentation les plus parcimonieux possibles. Alors, dans le domaine de la philosophie, qui est notamment de la philosophie analytique, c'est un principe complètement fondamental. Donc là, je citerai Russell, donc ça c'est 1914. Le rasoir d'Ockham, c'est la maxime méthodologique suprême quand on est philosophe. Alors, ça continue, vous pouvez trouver beaucoup de citations en physique moderne, Ernst Mach qui est à l'origine des ondes de choc, principe d'économie, les scientifiques doivent utiliser les principes les plus simples en excluant ce qui n'est pas perçu, donc encore une fois, un positionnement qui est beaucoup plus empirique, et en mathématiques. Alors en mathématiques, ce principe de parcimonie, évidemment, on le retrouve dans la recherche d'un nombre minimum d'axiomes. Vous avez tous entendu parler sans doute des discussions sur les systèmes axiomatiques, par exemple la géométrie euclidienne. Vous avez le cinquième principe d'Euclide qui dit que quand vous avez une droite et un point en dehors de cette droite, il existe une droite unique qui est parallèle à celle-ci. Et une des questions fondamentales en maths jusqu'à récemment, jusqu'à Poincaré, était de comprendre est-ce que ce principe pouvait être déduit des quatre premiers principes de la géométrie euclidienne ou est-ce que c'est un axiome fondamental, c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser. Et Poincaré a démontré que oui, c'est un principe fondamental au sens où si on l'élimine, on peut définir des géométries non euclidiennes en définissant les droites comme étant des géodésiques qui, sur des espaces courbes, peuvent éventuellement s'intersecter. Donc idem pour l'axiome du choix en arithmétique. Donc il y a toute cette recherche en mathématiques de représentation parcimonieuse au sens de nombre minimum d'axiomes. Alors la question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on voit apparaître ces principes de parcimonie dont je vais parler pendant tout ce cours, absolument partout ? Alors il y a plusieurs explications. Il y a une première explication, disons, qui est de l'ordre esthétique, qui est très présente en mathématiques. Finalement, le beau viendrait du simple. D'une certaine manière, c'est aussi une racine théologique où le vrai est dans le simple. Donc on peut définir des a priori et dire c'est un absolu, le principe de parcimonie est là parce que c'est ce qui va nous amener vers la vérité. Il y a un autre point de vue qui est empirique, donc qui rejoint beaucoup plus le point de vue anglo-saxon, par exemple Newton, et qui va venir du fait, qui est un principe très présent en apprentissage, d'éviter le surapprentissage. Si le nombre d'hypothèses est supérieur au nombre de mesures, il est toujours facile d'expliquer les mesures à partir de ces hypothèses. Et on peut expliquer absolument n'importe quoi. Il y a un autre point de vue qui observe qu'attaché à chaque mesure, il va y avoir une forme d'erreur, il va y avoir une forme de bruit. Donc, minimiser le nombre de mesures, c'est en fait un compromis entre l'erreur qu'on va produire, et là, on va se retrouver en plein dans ces notions d'approximation en basse dimension. Dans le cadre statistique, cette erreur, ça va être souvent définie par la notion de biais. Et puis, l'erreur de modèle. Et puis, il y aura un autre type d'erreur qu'on va avoir si on prend trop d'hypothèses, c'est les erreurs de mesure ou les erreurs qu'on a fait en sélectionnant ces hypothèses qui, dans un cadre statistique, vont correspondre à une notion de variance. Et on va avoir constamment ce trade-off entre biais et variance, tout comme dans le cas de la compression, on a un trade-off entre l'erreur d'approximation et l'information, le nombre de bits dont on va avoir besoin. Alors, il y a un autre type de justification, c'est d'essayer de définir de façon intrinsèque des hypothèses qui auraient le plus d'informations possibles, c'est-à-dire qui ont une densité d'informations maximum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour essayer de comprendre cette notion, on va aborder pendant le cours la théorie de l'information. Alors ça, c'est quelque chose qui va être très naturel, puisque à travers le codage, il va falloir définir la notion de codage minimum qui est liée au concept d'entropie, ce qu'on va démontrer, et donc là, on va faire un détour par la théorie de l'information pour comprendre comment ce que ça rentre dans ce cycle entre régularité, approximation et parcimonie. Alors, je voudrais juste finir cette introduction sur un peu cette histoire par le fait que ce n'est pas un principe absolu. Donc c'est un principe qui a été remis en cause par un certain nombre de philosophes, y compris Wittgenstein, qui était un élève de Russell, pour qui la parcimonie est une règle arbitraire qui n'est justifiée que par son efficacité. Et effectivement, si vous regardez par exemple du côté de la biologie, nombre de biologistes ont fait observer, comme Watson, le fait que la simplicité n'est pas du tout forcément observée en biologie. Si vous prenez, par exemple, le moyen de voler, eh bien, vous en avez plein, depuis les insectes jusqu'aux oiseaux, en passant par les avions, et il n'est absolument pas clair que le système biologique ait choisi le moyen le plus simple. Alors, maintenant, on peut se dire, oui, ils n'ont peut-être pas choisi le moyen le plus simple en soi, simplement, est-ce qu'on veut étudier un système biologique de façon complètement isolée ou étudier le système dans son ensemble ? Si on étudie le système dans son ensemble, ça veut dire qu'il faut considérer le système dynamique qui a été l'évolution des espèces, et derrière, il y a un principe qui est extraordinairement simple, qui est le principe du darwinisme, qui est le principe de la sélection. Et donc, ce qu'on voit apparaître quand on commence à rentrer devant ce genre de questions, c'est que ce type de questions ne sont bien posées qu'à partir du moment où le système est isolé. Si le système n'est pas isolé, eh bien, c'est très mal posé la question de simplicité. Et là, c'est typiquement le cas quand on regarde un système biologique et qu'on oublie son évolution qui est derrière. Alors, dans le cadre du cours, on va éviter ce genre de problème en définissant justement des questions qui sont bien posées. Donc je vais revenir sur chacune de ces questions un peu plus en détail pour essayer de montrer exactement ce qu'il nous faut et pourquoi cette notion de basse dimension est absolument fondamentale. Alors j'ai commencé par la compression. Le cas de la compression est assez clair. On va représenter X qui est ici par un vecteur de plus basse dimension, qu'on peut par exemple appeler phi de x. Et phi de x, ça va être en quelque sorte une paramétrisation du signal avec un nombre m de paramètres. Et ce qu'on espère, c'est que m est beaucoup plus petit que d. Et donc, dans ce cas-là, au lieu de coder les décoordonnées de x, on va simplement coder un nombre qui est restreint, et avec une allocation de bits optimale, on espère pouvoir faire de la compression. Qu'est-ce que ça veut dire en sous-jacent ? En sous-jacent, ça veut dire que, peut-être revenir un peu plus à droite, vous avez un espace, qui est votre grand espace RD, qui est ici, et en fait, vous observez que les données n'appartiennent pas, sont pas n'importe où dans l'espace, mais appartiennent à une sous-partie de l'espace qui va être une espèce de surface, qui va être la surface d'approximation, qui, elle, est incluse dans un espace plus petit de dimension m, ou, en tout cas, cette surface, si éventuellement elle n'est pas incluse dans un espace linéaire, elle peut être paramétrisée par m coefficients. Donc l'idée, c'est que les données ne vont pas vivre n'importe où, mais vont vivre dans un sous-espace paramétrisé par ces m coefficients, et donc la compression va consister, au lieu de coder, de représenter tout l'espace, de représenter la position de x à l'intérieur de cette surface, et donc phi de x va être une forme de coordonnée locale de x à l'intérieur de cette surface. Donc il y a cette idée, quand on va essayer de chercher des représentations qui sont parcimonieuses ou des approximations en basse dimension, d'essayer d'arriver à la notion de structure, de retrouver les structures fondamentales du signal qui fait que X n'est pas identique à n'importe quel autre signal. Alors, une fois qu'on a observé ça, on comprend beaucoup mieux pourquoi ça va être utile, par exemple, pour faire du débruitage. Si vous prenez X et que vous lui rajoutez du bruit, donc pensez pour X, par exemple, si je prends une série temporelle, être quelque chose comme ça, très régulier, par exemple, dans cet exemple. Et puis, epsilon, c'est quoi ? C'est du bruit. D'accord ? Donc, tout ça, c'est paramétrisé par un paramètre U. D'accord ? Pour chaque valeur de U, vous avez une valeur de X et de epsilon. Qu'est-ce qui va se passer ? Si ma surface, c'est l'ensemble des fonctions qui sont, comme ça, uniformément régulières, eh bien, epsilon, quand je passe de X à X plus epsilon, ça va me sortir de ma surface. D'accord ? Je vais me retrouver quelque part dans RD. Donc évidemment, il y a immédiatement une idée qui vient à l'esprit pour essayer de supprimer le plus possible de bruit, c'est de reprojeter dans l'espace des signaux. D'accord ? Et donc de faire une espèce de projection orthogonale ici pour revenir dans l'espace. Et là, du coup, vous aurez supprimé une partie du bruit et il vous restera évidemment une erreur epsilon tilde, mais qui sera beaucoup plus petite parce qu'elle correspondra essentiellement à la projection orthogonale du bruit dans l'espace. Alors, ce qui peut être fort compliqué, c'est le fait que l'espace en sous-jacent n'est pas forcément un espace linéaire, et dans ce cas-là, il faudra faire une projection qui est une projection non linéaire. Mais on voit bien, notamment, que plus l'espace de X est petit, plus vous allez pouvoir supprimer de bruit. Et donc, plus vous avez une représentation parcimonieuse ou une approximation en basse dimension, mieux vous allez pouvoir éliminer du bruit. Alors pourquoi approximation ? Parce qu'en pratique, notre signal ne va jamais exactement appartenir à la surface. Il va être toujours un petit peu en dehors. La surface ne va être qu'un modèle, et donc un modèle un peu erroné. Et donc on va avoir deux types d'erreurs. On va avoir un type d'erreur qui est l'erreur de modèle, qui est le fait que, en fait, le vrai signal n'était pas aussi uniformément régulier que ça. Et il y a un deuxième type d'erreur, qui est évidemment le bruit résiduel. Alors, il y a un autre type de problème qui est d'une certaine manière beaucoup plus important que les deux premiers dans les applications, c'est les problèmes inverses. Alors, dans le cas des problèmes inverses, on va se retrouver sur la même logique, mais dans un cadre un peu différent. Dans le cadre des problèmes inverses, ce que vous mesurez, c'est non pas x, mais une mesure de x. Donc, vous allez mesurer un certain nombre de paramètres, n, sur x. Les paramètres, ça peut être des paramètres physiques que vous pouvez mesurer dans un système, par exemple une batterie, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être une molécule chimique où vous mesurez le pH de la solution, vous pouvez avoir énormément de mesures, des images, ce sera les pixels de l'image, etc. Et il vous manque des pixels de votre image. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez beaucoup moins de mesures, n, que le nombre de paramètres de x. Donc on va se retrouver typiquement dans des solutions, dans des situations où n est plus petit que d. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez, depuis Rd, avec votre opérateur U, dans un espace plus petit. Donc il ne faut pas rêver, cet opérateur, il n'est pas inversible dans Rd. Donc à partir des mesures, vous ne pouvez pas récupérer x, sauf si vous avez une information a priori sur X. Et quel type d'information a priori vous pouvez avoir sur X ? Par exemple, que en fait, X n'est pas n'importe où dans RD, mais X appartient à un sous-espace. Donc, vous êtes retrouvé ici dans un espace Rn qui a X associé U de X. Et la question, c'est est-ce qu'on peut inverser ? Et la réponse, c'est oui, si vous savez que X appartient à une variété, à un ensemble paramétré, dont le nombre de paramètres M, ici, est plus petit que N. Dans ce cas-là, la restriction de l'opérateur U à cette surface est inversible et on peut espérer revenir. Et donc, évidemment, si la surface, à nouveau, est non linéaire, eh bien, quand bien même l'opérateur U, ici, est un opérateur linéaire, c'est-à-dire vous faites des mesures linéaires en faisant des moyennes, tout ce que vous voulez, l'inversion, elle, va être non linéaire. Elle va être non linéaire parce que le modèle est un modèle non linéaire. Et donc, on se retrouve sur des algorithmes ou des maths beaucoup plus sophistiqués, alors qu'en apparence, le problème est simple. Vous avez un opérateur linéaire à un inversé, il vous suffit de l'inverser. Non, il n'y a pas d'inverse, mais il existe une inverse. Un inverse non linéaire à partir du moment où vous avez des hypothèses de modèles qui sont sous-jacentes. Alors, ça correspond au traitement du signal, c'est-à-dire le traitement de données, la partie droite ici du tableau. Qu'en est-il de la partie gauche ? Alors, la partie gauche est d'une certaine manière beaucoup plus proche de l'histoire que je vous ai racontée sur tout l'historique de la notion de parcimonie, de sélection d'hypothèses. Il s'agit ici d'être capable d'estimer la réponse à une question, Y, une classe, une quantité physique, à partir d'une donnée X. Alors, le F ici, si vous supposez que X est par exemple, on va supposer qu'il est borné, donc dans 0,1 en dimension D, Eh bien, F, il appartient à un espace de possibles qui est énorme, qui est l'ensemble de toutes les fonctions qui vont de 0 à 1 D sur R. Vous pouvez vous limiter à un espace de fonctions qui est raisonnable, tout en restant très général, par exemple l'espace L2, qui va être l'espace de toutes les fonctions qui, au moins, sont de carrés intégrables. Alors ça va être très pratique d'un point de vue mathématique, parce que ça va nous donner une structure hilbertienne, c'est-à-dire une structure quasi-euclidienne, sauf quand on est en dimension infinie. Et donc, on a un espace linéaire de fonctions, mais qui est absolument énorme, et il va falloir, à partir de cet espace énorme, trouver F. Alors, à partir de quoi ? À nouveau, on est proche, ici, des problèmes inverses, à partir de mesures, et ces mesures vont être... Là, on est dans un cadre qu'on appelle d'apprentissage supervisé, et les mesures, ça va être, évidemment, des exemples de X, les xi, et des exemples correspondant à x de réponse, donc yi, qui est bien égal à f de xi. Donc on a des n exemples d'apprentissage. Et à partir de ces n exemples d'apprentissage, on peut voir ça comme un espèce de problème d'interpolation. À partir des valeurs de f de xi, il faut récupérer cette fonction f de x. Alors, évidemment, il va falloir avoir des hypothèses qui vont être très, très fortes pour, à partir de n exemples, pouvoir estimer cette fonction en dimension infinie. D'autant plus que cet espace, et on va le voir, ça, je vais très rapidement revoir ça, on a cette notion de malédiction de la dimensionnalité, cet espace est véritablement absolument énorme, et donc il va falloir avoir des hypothèses très, très fortes. Alors, plutôt que de regarder ces hypothèses, je vais commencer par les algorithmes. Qu'est-ce que, par exemple, parmi les réseaux de neurones, on vous propose comme algorithme pour essayer de résoudre ce genre de choses ? Ben, un réseau de neurones a une couche cachée, ça consiste à faire quoi ? Vous prenez votre tableau de nombres X qui a des variables, d'accord ? C'est un vecteur qui a des variables. Vous commencez par le représenter, ça c'est la première couche où vous allez appliquer un opérateur W, par les m variables de votre couche intermédiaire. C'est quoi ces m variables ? Elles sont calculées avec un opérateur linéaire suivi d'une non-linéarité rho. Donc, qu'est-ce qu'on va calculer ? Wx, d'accord ? Je peux l'écrire comme des produits scalaires entre x et un certain nombre de vecteurs que je vais appeler ep. Et je vais prendre m produits scalaires. Ou vous pouvez voir ça simplement, W comme une grande matrice qui va prendre en entrée X et puis qui va vous produire P. Donc vous avez une matrice qui va avoir ici des variables et puis M et vous allez obtenir un vecteur qui est WX ici, qui est de taille M. D'accord ? Ensuite, vous appliquez une non-linéarité, ρ. La non-linéarité est une non-linéarité ponctuelle. Alors, vous pouvez avoir différents types de non-linéarité. Par exemple, ce qu'on appelle un rectificateur, ça prend tout simplement le max entre la valeur A et 0. Donc, un rectificateur, si je regarde la variable A, c'est quelque chose qui est 0 quand A est négatif, et puis qui ensuite est égal à A. Vous pouvez prendre comme non-linéarité une sigmoïde. Donc une sigmoïde, ça a plutôt une tête comme ça. Typiquement, ça va être entre 1 et moins 1. Ça, c'est la variable A. Et ça, c'est ρ de A. Donc vous avez votre non-linéarité qui est ici. Et puis, à la fin, vous allez faire une combinaison linéaire de toutes ces variables avec un classificateur linéaire. Alors, si vous faites une régression, le but, c'est d'avoir un réel et qui va vous donner ici Y. Alors, comment est-ce qu'on peut écrire y qui va être une certaine fonction que je vais écrire ici, f tilde de x ? Bien, comment on a obtenu y ? Bien, on a commencé par calculer tous ces produits scalaires, c'est-à-dire qu'on a calculé ρ de WX, c'est-à-dire que j'ai appliqué la non-linéarité à chacun des coefficients qui est dans cette couche cachée ici. Et puis ensuite, j'ai fait une combinaison linéaire en appliquant un opérateur C. Et donc ça, c'est, j'applique l'opérateur C à WX. Éventuellement, je peux avoir un biais ici. Et puis, je peux avoir un dernier biais que je vais appeler petit d ici. Alors, si je décompose ceci pour écrire explicitement par rapport aux coordonnées que j'ai ici, eh bien, je vais avoir un opérateur linéaire qui est appliqué aux variables qui sont les rho de x produit scalaire avec ep, le biais, donc je vais rajouter un biais ici avant d'appliquer ma non-linéarité, et puis je vais faire une combinaison linéaire de ces quantités-là avec des coefficients CP, d'accord ? Donc là, je fais des combinaisons linéaires pour obtenir la valeur de Y à laquelle je peux éventuellement rajouter un biais, et ça, c'est ma valeur Y. Donc ça, c'est une autre façon de l'écrire explicitement. Et vous le voyez ici. Bon, qu'est-ce qu'on voit ? Ce qu'on voit dans ce cas-là, c'est que la fonction F tilde que j'ai construite, eh bien, c'est une combinaison linéaire de ces quantités-là. D'accord ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, j'ai M quantités ici. D'accord ? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris F tilde. D'accord ? Y tilde, c'est F tilde de X. Et je l'ai décomposé comme une combinaison linéaire de fonctions élémentaires. Et ces fonctions élémentaires, donc je peux les écrire comme somme sur P de CP et la constante D, je peux la garder ou je peux l'enlever, ça n'a pas grande importance, comme des fonctions élémentaires que je peux appeler ici G indice P de X. Et c'est quoi les fonctions G indice P de X ? Eh bien, c'est précisément ces fonctions ici, c'est-à-dire cette fonction du produit scalaire plus un certain biais de rho. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, j'ai construit un modèle linéaire à partir de fonctions prédéfinies de F tilde. Autrement dit, j'ai construit un modèle d'approximation en relativement basse dimension, simplement M, et surtout, pourquoi ce n'est pas tellement compliqué ? Parce que c'est un modèle linéaire. Alors, comment ça se passerait si jamais je voulais faire de la classification ? Si je veux faire de la classification, c'est essentiellement la même chose. La seule différence, c'est que la sortie ici, Y, au lieu d'être une valeur, typiquement, ça va être un petit tableau de valeurs. Si je suppose que le nombre de classes que j'ai, donc vous prenez un problème quelconque, par exemple en musique, vous voulez classifier différents genres de musique, rock, pop, classique, etc., vous allez avoir un certain nombre K de classes et les Y, c'est les labels de chacun de ces classes. Ben, ce que vous pouvez faire, c'est avoir une sortie qui est un petit tableau de dimension K qui correspond à chacune des valeurs possibles des Y. Et qu'est-ce qu'on va essayer d'approximer comme fonction ici ? La fonction qu'on va essayer d'approximer, c'est la probabilité de Y sachant X, plus précisément le log de cette probabilité. Pourquoi ? Parce que si vous êtes capable de calculer exactement cette probabilité, alors vous avez accès à ce qu'on appelle le classificateur bayésien qui va dire quel est le meilleur choix pour Y ? Le meilleur choix pour Y, c'est le Y dont la probabilité sachant X est la plus grande, donc on va prendre un max ici et ça va vous donner le Y. Donc tout le problème en fait, de classification revient en quelque sorte à un problème de régression, mais non pas de régression d'une fonction, mais de K fonctions sur lequel on va appliquer un max. Donc le problème de classification et les problèmes de régression sont essentiellement équivalents. À une non-linéarité finale près, c'est essentiellement la même chose, c'est-à-dire approximer des fonctions de X, calculer Y comme une fonction de X. Donc du coup, dans ce cas-là, au lieu d'avoir une sortie, je vais en avoir C, et donc du coup, eh bien, la sortie va être indexée par Y, et C, c'est non pas des scalaires, mais c'est véritablement une matrice. Mais on est dans le même cadre, c'est-à-dire qu'on va partir de fonctions élémentaires, qui sont les fonctions GP, qui sont obtenues comme un produit scalaire et un relu, c'est ce qui est stocké ici, et ensuite on fait une projection linéaire. Donc, on voit bien que tous ces réseaux de neurones à une couche cachée, ou à deux couches, eh bien, c'est exactement équivalent à parcourir ce triangle, comprendre la dimension, c'est-à-dire combien de neurones j'ai besoin de mettre dans la couche cachée, d'accord ? Et est-ce que ça va marcher ou pas ? En général, non, à moins d'avoir une couche cachée qui va grandir exponentiellement avec la dimension des données. En pratique, ça marche plutôt bien. Qu'est-ce que ça veut dire que ça marche bien ? Ça veut dire qu'on arrive à trouver en sous-jacent des représentations de basse dimension qui sont effectivement capables de prédire Y. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que F a de la structure. Et quand on commence à se poser la question pourquoi F a de la structure, parce que ça vient d'un phénomène physique d'un certain type, parce que les chats ont deux oreilles, un nez, une queue, etc., eh bien on commence à se poser la question de régularité. Et donc immédiatement on retombe là-dedans. Quand on parle d'explication d'une certaine manière du pourquoi ce genre de choses, on parle de la question de régularité. Alors, dès qu'on bouge vers des problèmes plus compliqués, et notamment des réseaux de neurones profonds, on va sortir de ce cadre-là. On va sortir de ce cadre-là, pourquoi ? Parce qu'un réseau de neurones profond, au lieu de s'arrêter là, on va itérer. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va à nouveau définir une deuxième matrice, là maintenant je l'appelle W1, et qui va associer une couche suivante avec à nouveau une non-linéarité ρ et une troisième matrice, etc., avec à chaque fois des cascades d'opérateurs W jusqu'à la classification finale C. Donc ça veut dire que la fonction f de x, elle va non pas être obtenue simplement à partir de ces fonctions élémentaires comme un opérateur linéaire, mais véritablement à partir d'une cascade. Donc vous allez avoir W1, ρ, W2, ρ, etc., jusqu'à Wj, ρ, et enfin votre classificateur linéaire. Et donc vous avez une cascade d'opérateurs linéaires, non linéaires, linéaires, non linéaires, et donc là vous allez définir un système qui est extraordinairement non linéaire. Et donc comprendre des réseaux de neurones profonds, ça revient à nouveau à comprendre cette boucle, mais dans un cadre qui est totalement non linéaire. Et donc on voit bien que pour commencer à pouvoir appréhender ce genre de questions, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe quand on va du linéaire au non linéaire. Pourquoi est-ce que ça vaut le coup de faire du non linéaire ? Dans quel cadre est-ce que ça vaut le coup ? Et on va voir qu'effectivement, quand on passe au non linéaire, on arrive à des représentation parcimonieuse beaucoup plus puissante, potentiellement si elle reflète la régularité sous-jacente. Il y a des problèmes où on ne peut pas faire mieux que du linéaire, il y a des problèmes où le non-linéaire fonctionne très bien, et le non-linéaire définit des classes de régularité qui sont différentes. En sous-jacent, si vous reprenez l'exemple là-bas, le non-linéaire, ça correspond à des surfaces qui sont courbes. Le linéaire, ou des variétés qui sont courbes, le linéaire, ça va consister, en fait, à, si je reprends l'exemple qui est ici, à faire une projection sur un espace qui va être linéaire. Alors ça paraît tout simple, sauf que le degré de liberté que j'ai sur le choix de mon espace est très grand et on peut faire énormément de choses déjà dans un cadre linéaire, à commencer par tous les réseaux de neurones à une couche. Ça m'amène au plan du cours, que je vais écrire là, où on va d'une certaine manière, explorer tout ça beaucoup plus en détail. Donc, on va commencer par le linéaire. Donc, le linéaire, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va regarder des approximations soit de x, si on fait du traitement de données, soit de f, si on fait de l'analyse de données, par des projections sur des espaces linéaires. Et donc, le premier objet qui va apparaître immédiatement, c'est l'analyse de Fourier. C'est quasiment, vous allez voir, un point d'attraction automatique. Dès qu'on fait de l'analyse linéaire, on tombe, si on a un tout petit peu de structure, sur de l'analyse de Fourier. Et on va notamment voir, dans ce cadre, que ce triangle est complètement compris. L'analyse de Fourier, ça va nous amener à des notions de régularité qui sont les notions que vous connaissez tous, c'est-à-dire, est-ce qu'une fonction est régulière ? Oui, elle est régulière si elle a des dérivés. Et si elle a beaucoup de dérivés, elle est très régulière. Et là, on va tomber sur tout ce qu'on appelle les espaces de Sobolev, etc. Et vous allez voir que ça vous amène automatiquement sur des notions d'approximation parcimonieuse. Alors, si vous êtes toujours dans un cadre de traitement de données, évidemment, vous ne connaissez pas forcément au départ la base orthogonale qui va vous définir une notion de régularité, et vous pouvez l'apprendre. Et ça, c'est tout simplement l'approche par analyse en composante principale, donc PCA, que vous connaissez tous, qu'on va juste, non pas revoir d'un point de vue algorithmique, mais plutôt bien montrer l'équivalence par rapport à ce problème. Quand est-ce que l'analyse en composante principale va vous faire tomber sur l'analyse de Fourier et quelles sont un peu les limites de ce genre de choses? Alors, dans le cas des réseaux de neurones, on va tomber sur le théorème qui vous dit que n'importe quelle fonction peut s'exprimer par un réseau de neurones à une couche cachée. C'est ce qu'on appelle le théorème d'approximation universelle, qui est en fait un théorème sans grand mystère, hein, c'est un théorème d'approximation dans un espace linéaire. Et simplement, et ça je le ferai rapidement parce que je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire dans ce contexte-là, évidemment, si jamais on est en grande dimension, il va falloir énormément de coefficients pour apprendre votre fonction. Donc oui, n'importe quelle fonction peut s'approximer par un réseau de neurones à une couche cachée, mais le nombre de neurones qu'il faut dans la couche cachée est monstrueusement grand, donc ça ne va pas marcher sur beaucoup de problèmes. Et donc là, on va passer au non-linéaire. Donc l'approximation non-linéaire, alors, les systèmes de représentation que je vais utiliser ici, systématiquement, c'est des bases. C'est-à-dire des opérations linéaires, souvent orthogonales, mais pas forcément. Et on va voir comment on peut faire de l'approximation non linéaire dans des bases et pourquoi est-ce que l'approximation non linéaire dans des bases peut vous donner des résultats qui sont bien meilleurs. Et donc, là, on va tomber sur les notions de seuillage dans des bases. Alors, pour pouvoir mettre ça en musique, il va falloir trouver des bonnes bases. Et ce que vous allez voir, c'est que les bases de Fourier ou les bases d'analyse en composante principale sont des très mauvaises bases pour faire de l'approximation non linéaire. Elles ne sont pas du tout optimisées pour ça. Et donc, on tombe sur d'autres types de bases. Et là, on va voir les bases d'ondelettes. Donc, on va voir les notions de multirésolution. Et on va rapidement construire ces bases orthogonales d'ondelettes. Et vous allez voir que les algorithmes rapides qui sont liés aux ondelettes ressemblent étrangement aux structures de réseaux de neurones profonds, c'est-à-dire des cascades d'opérateurs linéaires, sous-échantillonnage, linéaire, sous-échantillonnage, etc. Et à partir de là, on va revisiter tout ce triangle, mais dans un cadre non linéaire. C'est-à-dire que la notion de parcimonie va être différente. On va faire des approximations en basse dimension avec des algorithmes qui sont différents. Et donc, les classes de régularité vont être différentes. Et là, on ne va pas tomber sur les espaces de Sobolev, mais on va tomber sur des espaces qui sont différents, beaucoup plus généraux, qui sont les espaces de Besov. Et ces espaces, en fait, sont des espaces de signaux qui, au lieu d'être uniformément réguliers, peuvent avoir des singularités. Et donc, vous pouvez avoir des choses comme ça, mais d'une certaine manière, pas trop. D'accord ? Donc vous avez, et la quantité de singularité que vous pouvez avoir va être mesurée par l'index de l'espace et va vous donner des notions de complexité. Donc on va tomber dans une jungle de fonctions qui est beaucoup plus large, beaucoup plus générale et beaucoup plus intéressante, parce que là, vous pouvez commencer à avoir des images avec des contours, avec des domaines, etc., alors qu'une image uniformément régulière, elle n'est pas très intéressante. D'accord ? Si vous prenez le cas des images. Ensuite, on va passer à la théorie de l'information. Alors, la théorie de l'information est très importante en sous-jacente dès qu'on essaye de relier ça à des modèles. On le verra spécifiquement pour l'application à la compression. Dans le cas de la compression, ce qui nous intéresse, c'est non pas avoir un nombre minimum de paramètres, mais un nombre minimum de bits. Et la grosse différence, c'est qu'un paramètre, c'est un réel, et un bit, c'est 0 ou 1. Et un réel, a priori, il faut un nombre infini de bits pour le coder. Donc il va falloir passer de l'approximation du réel au nombre de bits. Et qu'est-ce qu'il y a en sous-jacent ? Il y a des enjeux de stabilité. C'est-à-dire qu'il faut que votre représentation dans la surface, votre paramétrisation, d'une certaine manière, elle soit stable, pour que si vous induisez une petite erreur sur un paramètre, il n'y ait pas trop d'erreurs sur le signal reconstruit. Donc on va voir cette correspondance avec le codage, et donc, j'en parlais, on va voir évidemment le fait que le nombre de bits est défini par l'entropie, et ça, c'est la base de toute la théorie de l'information de Shannon, avec cette observation qui est absolument remarquable, c'est qu'en très grande dimension, la plupart du temps, vous allez voir que les processus, ils se concentrent, et ils se concentrent dans des espaces très petits par rapport à l'espace total, et cet espace, c'est ce qu'on appelle les ensembles typiques, et qu'est-ce que c'est que l'entropie ? Eh bien, l'entropie, c'est une mesure de la taille de l'espace dans lequel les données se sont concentrées. Et donc, d'une certaine manière, on voit bien, l'entropie, c'est quelque chose qui est un peu similaire à cette dimension M, mais d'une certaine manière, va être un peu plus fin, une notion plus fine, pour accéder au nombre de bits, et on verra comment tout ça se met à nouveau en musique pour pouvoir obtenir des codes optimaux. Alors, donc on va faire de la compression à partir de ça, et là-dessus, je vais rentrer dans les applications. Alors, la première application qu'on va regarder, c'est la compression d'image. Et en particulier, il y a deux standards, JPEG et JPEG 2000. Et ce que vous allez voir, c'est que JPEG, c'est une base, une famille de bases orthogonales qui sont essentiellement des bases de Fourier. Et la génération d'après JPEG 2000, c'est des bases d'ondelettes qui permettent d'avoir des représentations plus parcimonieuses et donc qui ont permis d'améliorer la qualité de la compression d'image. Le deuxième type d'application qu'on va regarder, c'est le débruitage. Alors, le débruitage, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un problème assez fondamental parce qu'il permet notamment, en sous-jacent, d'identifier l'espace, la surface sur laquelle on est. Puisque finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait du bruit ? Quand on rajoute du bruit et qui est par exemple du bruit blanc, on bouge de façon aléatoire en dehors de la surface et on essaye de se ramener dans la surface. Donc, mettre au point un algorithme de débruitage, ça revient en fait à mettre au point un modèle pour les données et donc essayer de retrouver cette variété sous-jacente. Alors, j'ai parlé de temps en temps de variété, mais il faut faire très très attention parce que cette variété dans cet espace de dimension D, elle est très grande dimension. Et donc, mathématiquement, cette variété, elle va être essentiellement représentée par une notion de processus aléatoire. Il ne faut pas voir ça là. Il faut faire très attention quand on regarde ces petits schémas. On n'est pas dans un espace en trois dimensions avec une variété en deux dimensions. On est en espace de dimension 1 million, c'est-à-dire en espace de dimension infinie, dans lequel on a une variété de dimension 10 000 ou 100 000, c'est-à-dire elle-même de dimension quasiment infinie. Et donc, les propriétés ne sont pas les mêmes, et ça va être très important de bien le comprendre pour pouvoir voir pourquoi il y a quand même des mathématiques un peu sophistiquées derrière tout ça. Alors, la notion de débruitage, il y a deux approches, linéaire ou non linéaire, et on va regarder les deux, et on va regarder notamment les notions de modèle sous-jacent. Et si j'ai le temps, on va regarder les deux approches, l'approche bayésienne et l'approche minimax. En deux mots, il y a deux façons de modéliser des données. Une façon, c'est une façon déterministe, qui consiste à dire qu'est-ce que je sais sur X ? Eh bien, je sais que X appartient à un ensemble θ. D'accord ? Donc, c'est totalement déterministe. Je ne sais pas où est X dans θ, mais je sais que X appartient à une certaine variété θ qui, avec un peu de chance, est plus petite que mon ensemble dans sa totalité. Et dans ce cas-là, ce que je peux espérer faire, c'est avoir une erreur sur l'ensemble θ qui est la plus petite possible. Donc, autrement dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais minimiser l'erreur maximum pour tout x dans θ, et c'est ce qu'on appelle des modèles minimax. Les modèles bayésiens sont des modèles probabilistes. Alors, en apparence, on pourrait croire un modèle probabiliste, ça reflète le fait qu'on ne connaît pas beaucoup d'informations. En fait, c'est le contraire. Avoir un modèle probabiliste, ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'informations. Ça veut dire que non seulement je sais que x appartient à θ, donc dans une surface, mais j'ai aussi une information sur quelle est la probabilité pour que x se trouve ici, ici ou ici. Donc ça veut dire que j'ai une information p de x, je sais que la probabilité p de x est supportée dans θ, mais je la connais, cette densité de probabilité. Le problème, c'est qu'en pratique, on ne va pratiquement jamais avoir accès à ce p de x. D'accord ? Et donc c'est pour ça qu'on part souvent sur des modèles, quoi, parfois qu'on veut faire vraiment des maths rigoureuses avec des modèles minimax, parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire faire du minimax ? Ça veut dire prendre des modèles probabilistes, mais se placer dans le cas le pire, le cas où l'hypothèse sur mon modèle P est la pire possible. Voilà, donc ça, on terminera là-dessus. Donc voilà un peu le parcours un peu bordélique sur le tableau qu'on va couvrir, mais au centre, il y a ça. Et l'idée, c'est qu'on va parcourir à nouveau ce triangle deux fois, en linéaire, en non-linéaire, et lorsqu'on s'attaque à des problèmes différents, je parlais des réseaux de neurones profonds, eh bien l'enjeu, c'est de le parcourir une troisième fois avec des hypothèses sur la non-linéarité qui est encore différente. Alors, je ne parle pas d'optimisation du tout ici, qui apparaît de façon fondamentale en réseau de neurones, mais l'optimisation, ce n'est que optimiser la parcimonie. Donc c'est un outil pour arriver à ce triangle et découvrir cette espèce de structure qui est derrière. Voilà, ça c'est pour la présentation du cours et du plan. Et je voudrais maintenant passer au challenge. Donc, pour ceux qui prendront le cours, notamment pour le valider, mais pour tous les autres qui sont intéressés à la fois par le cours et par la science des données, ce qu'on a mis au point depuis quelques années, c'est un site web qui offre la possibilité de soi-même s'attaquer à des vrais problèmes de traitement de données, qui là sont plutôt des problèmes d'apprentissage supervisé, et je vais vous présenter au cours des 10-15 minutes qui viennent, ou un peu plus, ce qu'on propose cette année. Alors oui, j'oubliais une chose importante, il y a un site web sur lequel il y a les notes de cours, et les notes de cours vont être des extraits d'un livre et qui vont vous donner le détail des maths. Donc là, j'insiste à nouveau, pendant tout le cours, je ferai des démonstrations assez rapidement, dont l'enjeu, ça va être de vous donner les idées des techniques. Mais si vous voulez comprendre ce domaine, il y a un moment, il faut que vous preniez vous-même votre papier-crayon et que vous fassiez les démonstrations, parce que si vous n'absorbez pas les techniques, vous n'allez pas absorber les idées. Donc, c'est important, les notes sont là. Alors, attention, ça, c'est l'adresse, ça, c'est un tilde, mais il est au niveau du M. C'est l'adresse, c'est slash tilde mala slash, etc. Et vous aurez les notes de cours et vous pourrez télécharger les parties du livre à chaque fois qui correspondent. Alors, je vais revenir sur le site web. L'adresse du site web, elle est marquée en haut, c'est challengedata.ens.fr. Donc, vous allez immédiatement arriver sur cette page qui va vous donner toutes les informations un peu sur le principe. Donc, comme je le disais, le but, c'est de faire de l'apprentissage supervisé sur des problèmes qui sont différents. Donc, pour les participants, vous avez les guides. Alors, pour les enseignants, vous avez la possibilité d'utiliser tout ce site pour votre cours, spécialement dans cette période de confinement où c'est difficile de faire des oraux, mais de façon générale, pour des cours de sciences de données, d'avoir des élèves qui vont rentrer sur des vrais problèmes d'actualité, c'est souvent utile. Et donc, vous pouvez inscrire votre cours sur la plateforme. Vous pourrez le découvrir. Il y a un guide, vos étudiants qui s'inscrivent et qui suivent ces challenges. Et puis, chaque année, on a une campagne, et cette campagne vient de se terminer avec des providers de challenges. Donc, sur la plateforme dans son ensemble, eh bien, vous avez 43 challenges, vous en décrirez ceux pour cette année. Il y a plus de 5000 participants, donc il y a toute une communauté de data scientists, d'étudiants, de chercheurs qui sont autour de tout ça. Et l'idée, c'est pour les industriels, les laboratoires qui offrent les données, c'est une espèce d'échange entre d'un côté des données qu'ils offrent et des problèmes, et de l'autre côté, des gens qui arrivent avec des nouvelles solutions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un challenge? Vous allez avoir d'un côté des données X, donc X, ça peut être des images, ça peut être des séries temporelles, ça peut être des textes, et ce qu'on veut, c'est calculer la réponse à la question Y, et donc vous allez devoir développer un algorithme qui va calculer une approximation Y tilde, comme dans le cas de mes réseaux de neurones à une ou plusieurs couches, et pour faire ça, vous allez avoir des exemples d'entraînement, et donc qui sont un certain nombre d'exemples à la fois de X et de Y. Alors, pour évaluer la performance de votre algorithme, la plateforme va aussi vous donner des exemples de tests. Donc les exemples, les données de tests qui sont indiquées ici, vous n'allez pas évidemment avoir les solutions, c'est-à-dire les réponses Y qui sont associées, puisque l'enjeu, c'est justement que vous calculiez les prédictions à partir de ces exemples de tests. D'accord ? Et donc, vous allez les soumettre à la plateforme. Évidemment, la plateforme, elle, a stocké les vraies réponses. Et donc, la plateforme va vous renvoyer un score qui va être une mesure de l'erreur entre ce que vous avez soumis et la vraie valeur Y. Alors, le score dépend totalement du problème. Et encore une fois, on va regarder ça un peu plus en détail. Si vous avez des problèmes de régression, ça peut être tout simplement une erreur au carré. Si vous avez des problèmes de classification, des erreurs différentes, vous pouvez avoir des courbes ROC, etc., des choses très différentes. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez soumettre. Alors, vous ne pouvez pas soumettre plus de deux exemples, deux solutions par jour. Pourquoi ? Parce qu'on veut éviter que vous appreniez, autrement dit, vous fassiez du surapprentissage sur les exemples de tests. On va en parallèle, ou plutôt la plateforme maintient en parallèle une partie des données qui sont cachées, c'est-à-dire qui ne sont jamais, sur lesquelles on ne vous donne jamais les réponses. Et deux fois dans l'année, on va donner les réponses sur les variables cachées, le 15 juin et à la fin de l'année, c'est-à-dire le 15 décembre. Donc ça, vous le verrez dans ce qu'on appelle le private leaderboard. Et ça, c'est le juge de paix. Parce que évidemment, si vous faites trop de soumissions, vous allez finir par avoir des très bons résultats sur ces exemples sur lesquels vous avez soumis très souvent. Mais sur les exemples que vous n'avez jamais vus, vous aurez peut-être des résultats très différents. Et ça, l'occasion de voir la différence de résultats, ça va être l'expérience du surapprentissage. Vous allez voir pourquoi il ne faut pas faire de surapprentissage, pourquoi il ne faut pas soumettre trop souvent, ça va être à travers le décalage de score. Alors chaque année, on a une remise de prix qui normalement a lieu en début janvier, c'est-à-dire normalement qui aurait dû avoir lieu la semaine prochaine. Hélas, cette année, on ne pourra pas le faire, mais il y aura un palmarès de score et deux gagnants qui seront malgré tout affichés. Et les challenge providers organiseront peut-être chacun de leur côté des séances, ça c'est à voir. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que tout ça, c'est l'occasion de faire de la science. Et donc, le but, ce n'est pas simplement d'avoir un très bon score, mais vraiment de comprendre ce qui se passe. Mais quand bien même votre but serait de faire, d'avoir un très bon score, vous avez intérêt à faire de la science. Autrement dit, il y a des méthodologies qui sont derrière. Alors, il y a un très bel exposé qui avait été fait il y a maintenant 3 ans par Pierre Courtiol dans le cours. Donc, vous pouvez le récupérer sur le site du Collège de France. C'était l'exposé du 21 février 2018. Et il vous explique... Lui fait partie des champions de ce type de challenge sur Kaggle et il vous explique la méthodologie. Et il y a quelques principes de base. D'abord, regardez les données, regardez un peu les statistiques des données, comment elles se comportent. Alors, quelque chose d'élémentaire, mais qui est très difficile de le suivre, c'est de commencer par simple. On a assez naturellement tendance ou envie de prendre les données, de les balancer dans un réseau de neurones profond à 250 couches qui a été programmé dans PyTorch et de voir ce que ça donne. C'est une mauvaise stratégie. Mauvaise stratégie d'abord parce que ça ne marche pas la plupart du temps et surtout, vous n'allez pas comprendre comment l'améliorer. Il faut commencer avec des modèles simples, voire des modèles linéaires pour comprendre pourquoi le problème est compliqué. On va vous fournir des benchmarks sur ces problèmes. Commencez par regarder les benchmarks, comment ils fonctionnent pour comprendre pourquoi est-ce que vous pouvez l'améliorer. Et encore une fois, on retombe sur ces problématiques. Vous avez un modèle linéaire, vous allez voir que les performances sont potentiellement limitées. Quel type de non-linéarité? Alors, pour les étudiants M2 qui sont liés au master de MVA ou de PSL, donc il y aura des oraux qui vont être organisés dans le cadre de ce cours. Donc je vais vous demander... simplement de vous inscrire en envoyant un mail à... donc ça, c'est seulement pour les étudiants de ce M2 et de PSL, à Dominique Bidois, voilà l'adresse, avec comme sujet inscription. Alors, pour tous ceux... donc, je vais vous demander aussi de vous inscrire, vous verrez dans la plateforme, vous pouvez vous inscrire dans un cours. Donc, le cours a été enregistré sur la plateforme, représentation parcimonieuse, d'accord. Et vous allez voir que vous ne pourrez choisir que les challenges de 2021. Donc, sur la plateforme, vous avez maintenant 4 saisons depuis 2018, 19, 20, 21. D'accord ? Et vous pouvez choisir n'importe quel challenge, sauf pour les étudiants de CM2 qui sont brimés, qui, eux, ne pourront choisir que ceux de 2021. Et l'idée, c'est que chaque année, eh bien, ça permet aux challenge providers de rencontrer les étudiants et puis un peu de tester des nouveaux sujets. Donc, les oraux auront lieu le 24 mars et vous allez avoir le 19 mars, pour les étudiants de cours ou tous ceux qui seront inscrits, les résultats sur les données cachées le 19 mars, donc 5 jours avant la remise des projets. C'est quoi l'idée? C'est que vous allez voir le 19 mars si vous avez fait du overfitting ou pas, et pourquoi. Et donc, vous n'aurez pas d'autres occasions de voir les résultats cachés, d'accord? Donc, ça veut dire que cette question d'overfitting, c'est-à-dire de ne pas mettre trop de paramètres, de ne pas trop soumettre, va être très présente parce que c'est sur ces résultats-là qu'on va juger la performance de vos algorithmes. Et vous pouvez faire ça soit seul, soit en binôme. Alors, je le disais... au cours de toute cette présentation, en sous-jacent, tous ces problèmes, y compris de classification, reviennent à calculer une représentation. Si vous pensez au problème de réseau de neurones, eh bien, quand bien même vous faites un réseau de neurones profond, vous allez avoir une représentation qui va être construite, c'est la représentation ici de la dernière couche. Donc ici, ça c'est la représentation phi de x, à partir de laquelle vous allez appliquer une projection linéaire pour avoir votre solution Y, ou en tout cas Y approchée. Donc, la question de la représentation va se poser dès que vous allez commencer à attaquer ce genre de challenge. Et donc, il faut voir ces projets comme des espèces de mini-projets de recherche et vous poser les questions. Pourquoi vous avez choisi ce type de représentation? Comment? Pourquoi est-ce que ça marche bien? Et en sous-jacent, évidemment, ça va dépendre de la formation a priori que vous avez sur le problème. Quand on pose un problème, et vous verrez les exemples de problèmes que je vais vous présenter, eh bien, évidemment, il y a tout un contexte. Autrement dit, il y a des formes de régularité sous-jacentes derrière ce problème, et c'est ça qu'il faut que vous exploitiez. Voilà, donc pour les étudiants du cours, je vous conseille de commencer très rapidement, parce que c'est un travail malgré tout assez important. Alors, cette année, il y a eu 12 challenges, et je voudrais ici remercier d'abord l'organisateur qui est présent ici, Rudy Morel, qui a fait un superbe travail pour mettre tout ça en place, et celui qui a fait l'essentiel de la programmation sur les deux dernières années du site, Tanguy Marchand, donc, qui est responsable du site, et vous verrez, il est plutôt très, très bien fait. Et puis, il y a eu dans l'équipe des bêta-testeurs qui, en échange avec les providers, les ont aidés pour mettre au point tout ça. Je voudrais les remercier, Antoine Brochard, Florentin, Gude, Gaspard Rochet et John Zarka, et puis, évidemment, tout ça a été aussi soutenu un peu financièrement par l'investisseur gestionnaire de fonds CFM, par l'Institut d'intelligence artificielle Prairie et par la Fondation des maths de Paris. Alors, je voudrais en venir aux 12 challenges de cette année. Vous allez voir, ce sont des challenges sur des domaines très différents. Alors, le premier a été soumis par l'AMF. L'AMF, c'est en quelque sorte le gendarme des marchés financiers qui contrôle que toutes les transactions sont légales, etc. Et un des problèmes qu'a l'AMF, c'est de surveiller notamment le trading haute fréquence et de voir que les pratiques sont les bonnes pratiques. Et donc, le problème que nous a ici soumis l'AMF, c'est d'essayer de détecter les traders haute fréquence. Et comment est-ce qu'on les détecte ? Eh bien, ils vous proposent, à partir du comportement de trading dans la journée, ils proposent un vecteur de descripteur, de 35 descripteurs, ce qu'ils décrivent, de sortir la caractéristique de l'investisseur. Est-ce que c'est un trader haute fréquence ? Est-ce que ce n'est pas un trader haute fréquence ? Ou est-ce que c'est un trader mixte ? D'accord ? Et donc, quelles sont les difficultés ? Eh bien, on a des classes qui sont très peu équilibrées, peu de traders haute fréquence parmi les participants, et ce n'est pas forcément évident, comme vous le verrez, pour les détecter. Donc, à chaque fois, vous verrez sur le site du Collège de France, tout comme sur la plateforme, il y a une vidéo de 10 minutes où on vous explique en détail, puis il y a toutes les informations sur le site. Alors, dans le domaine de l'économie, de la finance, vous avez un deuxième challenge qui a été proposé donc par ce fonds d'investissement CFM. Et là, le problème, c'est de prédire les volumes de transactions en fin de journée. À la fin d'une journée, vous avez ce qu'on appelle des enchères, c'est-à-dire qu'il y a des très gros volumes qui sont échangés. Pourquoi ? Sous forme d'enchères. Pourquoi ? Parce que les gens ont besoin éventuellement d'avoir une position neutre à la fin de la journée, de manière à ne pas souffrir par des variations de position pendant la nuit, par ce qui se passe à Tokyo ou à New York, etc. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est être capable de prédire le volume de ces enchères à partir des données qui vous sont fournies, qui sont des données de rendement, de volume au cours de la journée. Et donc, vous avez ici un problème, en quelque sorte, de régression ou, suivant ces quantifiés, de classification. Troisième problème, totalement différent, proposé par une start-up Dream. Là, l'enjeu, c'est de détecter l'apnée pendant le sommeil. Donc, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'apnée, beaucoup plus que ce qu'on pense, et ce qui peut être potentiellement dangereux. Et donc, ce qu'ils proposent, c'est mode d'acquisition de différents types de signaux, d'électrocardiogrammes, d'électroencéphalogrammes et de signaux respiratoires. Donc ça va être le X, d'accord ? Et le Y, ça va être une segmentation dans le temps qui va vous déterminer, là vous voyez en rose, les périodes d'apnée. D'accord, d'apnée respiratoire. Donc, vous allez avoir à nouveau un problème de classification complètement mal équilibré, environ 7% d'apnée typiquement dans les mauvais cas de période. Votre X, c'est une série temporelle, donc évidemment la question de représentation, puis vous voyez bien que vous avez des séries très oscillantes. Donc, séries oscillantes, on va pouvoir probablement replacer des outils d'analyse harmonique pour ça, et donc on veut améliorer les outils existants. Alors, pour ceux qui préfèrent plutôt sauver la planète, ça c'est un challenge qui est proposé par le CNRS, deux chercheurs du CNRS. Donc là, l'enjeu, c'est d'essayer de prédire sur des périodes de 5 ans les écarts par rapport aux variations naturelles du climat. Donc il y a une certaine courbe de probabilité pour que vous ayez des températures beaucoup plus froides ou des températures beaucoup plus chaudes. Vous avez des modèles qui construisent ce type de choses, donc à partir de modèles physiques, de modèles chimico-physiques, d'échanges entre les océans, l'atmosphère, les végétations, etc. Et puis, vous pouvez avoir une approche purement statistique en partant des données et essayer de faire de la prédiction. Et ce qu'on va vous donner pour faire ça, c'est des cartographies mondiales avec les modèles existants et il va falloir faire de la prédiction sur les 5 ans à venir. Donc voilà, ici, le Y, ça va être la prédiction. Alors, la spécificité du challenge, c'est que ce genre de choses ont été... Alors, de manière générale, systématiquement, ce sont des problèmes nouveaux. C'est-à-dire qu'on ne vous pose pas des faux problèmes, mais des vrais problèmes. Et donc là, ce genre de prédictions ont été faites à l'échelle de la planète, en termes de prédictions statistiques. Question, est-ce qu'on peut avoir des bonnes prédictions, mais beaucoup plus localisées, de façon géographique? C'est la question sous-jacente de ce challenge. Ce challenge-là, qui est proposé par la société Miwoo, est un challenge d'analyse et de labeling de musique. D'accord, vous allez avoir des musiques sur lesquelles on va vous donner des descripteurs. Donc là, on ne va pas remonter au niveau du signal d'entrée, mais des descripteurs qui ont été déjà calculés par des réseaux de neurones. Et à partir de ces descripteurs, ce qu'on veut, c'est être capable de retrouver les tags. Alors le tag de musique, ça peut être quel type d'instrument, quel type de musique, rock, folk, il y a plein d'autres tags, donc il doit y en avoir une centaine de tags comme ça, et on, donc avec des données à nouveau complètement déséquilibrées, et donc l'enjeu, c'est d'être capable de faire d'une certaine manière, d'analyser cette dernière phase qui va partir de ces descripteurs et d'arriver à de la classification. Alors, autre type de problème qui est d'une certaine manière lié à l'environnement, en tout cas l'économie d'énergie, à nouveau proposé par une société, aux énergies. Et là, l'enjeu, c'est de minimiser les dépenses énergétiques dans les bâtiments sans faire de rénovation. Et alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, pour faire ça, il faut optimiser la température et donc tout en maintenant des bonnes zones de confort. Et pour ça, eh bien, il faut faire de la prédiction sur l'évolution des qualités, des caractéristiques physiques. Donc là, les variables X en entrée, ça va être la quantité d'air soufflé par trois centrales de traitement d'air et des prévisions sur la température et l'humidité relative à l'extérieur. Et ce qu'on veut, c'est prévoir plusieurs quantités, dont notamment la température et l'humidité relative à l'intérieur, qui est évidemment un des paramètres fondamentaux de confort. Et donc là, vous avez des problèmes de prédiction, notamment de séries temporelles. Autre challenge qui est ici proposé par Planet Week, société qui aide à nouveau à l'optimisation des ressources énergétiques. Alors là, c'est un problème qui est lié à l'utilisation des bornes de chargement de voitures électriques à Paris. Donc, ce qu'on veut, c'est évidemment optimiser la répartition de ces bornes et s'assurer qu'il n'y a pas de liste longue, disons, d'attente qui est trop longue. Et donc, pour ça, vous allez avoir un historique de l'utilisation, mais aussi des éléments de contexte. Les éléments de contexte, ça peut être, par exemple, le trafic en temps réel, c'est la météo, toutes sortes d'éléments qui vont pouvoir influencer la classification. Et à partir de ça, il va falloir mettre au point un système de prédiction d'utilisation de ces bornes. Alors, d'autres types de données. Des images ici. Donc là, vous allez avoir des images satellites. Et là, vous avez un problème de couverture de sol. Ce qu'on a besoin, c'est de savoir en temps réel l'évolution des couvertures de sol, c'est-à-dire est-ce qu'on a de la végétation, de l'urbain, différents types d'urbains, etc. Et donc, c'est un problème de segmentation d'images. Vous allez avoir en entrée les images couleurs, avec évidemment toutes les problématiques de couverture nuageuse qu'il faudra traiter, et d'être capable d'optimiser les classifications à partir de ces images satellites. Autre problème, plutôt du côté ici, les parcours dans l'ordre alphabétique, financier. Donc, vous avez sur les marchés deux types d'actifs, ce qu'on appelle des actifs liquides, qui s'échangent énormément avec un très gros volume, et des actifs qui ne sont pas liquides, c'est-à-dire des actifs où, si jamais vous faites une transaction, potentiellement, d'abord, il y en a peu, et vous pouvez influencer le prix à travers votre propre transaction. Et donc, l'objectif ici, c'est d'évaluer les performances des actifs liquides à partir des actifs qui ne sont pas liquides. Donc, vous avez le X, ça va être la performance des actifs qui ne sont pas liquides, avec une catégorisation des actifs, parce que ça va dépendre des secteurs d'activité, etc. Et le Y, ça doit être une information sur la performance des actifs liquides, et le contexte économico-financier vous sera expliqué à nouveau dans ces petites vidéos. Autre challenge avec des données, cette fois-ci mixtes. Ça, c'est un challenge qui est proposé par Rakuten, qui est un site de e-commerce japonais. Et là, ce qu'il nous propose, c'est des images et du texte. Le texte est en japonais. Et ce qu'on va vous demander, c'est de trouver le label de couleur du produit. Donc là, par exemple, vous avez une tasse, elle est blanche. Donc il faut sortir le label de couleur. Il y a des exemples qui sont beaucoup, beaucoup plus compliqués. Et donc, il va falloir faire ça à partir des données textuelles. Donc là, vous avez un problème multimodal. D'une certaine manière, il faut tout intégrer. Et de l'image, d'accord ? Et vous allez voir, il y a des exemples qui sont donnés. Il y a des exemples qui sont vraiment compliqués pour déterminer la couleur sous-jacente. Alors là, on part dans un domaine à nouveau totalement différent. Ça, c'est le domaine de l'exploration géophysique. Donc ça, c'est proposé par la société Schlumberger. Et donc, en géophysique, l'enjeu, c'est de découvrir les structures géophysiques du sous-sol. Comment on fait ça ? Eh bien, on émet des ondes, on a des ondes réfléchies, on a des signaux, et à partir de ces signaux, on essaye de construire des modèles du sous-sol. Et donc, vous avez, après inversion des équations des ondes, des modèles qui sont comme ceci. Et ce qu'on veut, c'est notamment déterminer les zones d'intersection entre des couches géophysiques, parce que ça, ce sont des éléments très caractéristiques pour déterminer notamment des présences d'eau, de pétrole, de gaz, etc. Et donc l'enjeu du challenge, c'est à partir des données obtenues dans le cadre de campagnes de prospection, c'est de déterminer ce qu'on appelle les dips, c'est-à-dire les points d'intersection à travers ces structures sinusoïdales qui décrivent plus en détail. Dernier challenge, qui est un challenge là vérifié, industriel. Donc, une des grosses problématiques, évidemment, dans l'industrie, c'est le contrôle de qualité. Et là, c'est un challenge qui est proposé par Valeo, donc industrie automobile. Et l'enjeu, c'est d'avoir un processus de qualité sur des produits de câblage électronique qui sont donnés, sur lesquels ils ont une visualisation. Donc là, vous avez sur un module de puissance l'image du câblage, et l'enjeu, c'est de déterminer des défauts. Et la grosse difficulté, c'est que c'est aussi des défauts qui sont tridimensionnels, vous avez des images bidimensionnelles, il y a des effets qui peuvent se voir, qui peuvent ne pas se voir, et donc l'enjeu majeur, c'est de déterminer les deux classes, défauts OC ou pas OC, pour ne pas laisser partir des produits qui sont défectueux. Voilà, donc ça, c'est les 12 challenges. Donc, à nouveau, pour les étudiants de ces M2, voilà les 12 challenges que je vous propose de faire pour cette année. Par contre, pour ceux qui suivent le cours, mais plus librement sans notes, eh bien, vous en avez 43 de challenges dans la plateforme. Vous pouvez revenir dans le passé. Il y a plein de types de problèmes de données. À chaque fois, vous allez avoir les vidéos. Et les vidéos, vous pouvez les retrouver sur le Collège de France. Voilà, écoutez, amusez-vous bien, et donc il est 11h, je vais terminer là-dessus. Je vous remercie beaucoup.